Beur FM, le best-of.
9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Voilà, Maître Serran vient de terminer son chocolat. Il peut donc maintenant répondre à vos questions au 01-53-48-3000. Là, vous, hop, il est tout seul. Hein.
Vous n'avez pas honte de dire un truc pareil.
Non, j'ai absolument pas honte. Rapprochez-vous de votre nouveau micro,
Maître Serran. C'est un nouveau micro.
Voilà, regardez ça. Il faut le diriger vers vous.
C'est-à-dire que vous avez entendu ce qu'elle vient de dire, non? C'est n'importe quoi.
Qu'est-ce qu'elle a dit, Madame Elbouga?
On parle de règles. Moi, je parle d'un chocolat, on me tape sur la tête et elle dit ça, vous lui dites rien.
De règles juridiques.
Juridique. Oui. J'avais pas compris.
C'est ça.
Autant pour moi. Bon. J'ai l'esprit tordu.
J'espère que Kamel va nous sortir et nous sauver de cette situation. 01 53 48 3000. Kamel, bonjour, bienvenue. Ou pas.
Bonjour Philippe, une ancienne connaissance, à la radio surtout. Hein,
bah, donc, écoutez, Kamel, bienvenue.
Depuis très longtemps. Et si vous me permettez, ma petite introduction à moi, parce que j'ai entendu Maître Serran nous faire une très belle introduction que j'ai beaucoup appréciée. C'est un grand orateur, et c'est tout à son honneur, et ça fait plaisir aussi. Ça change un petit peu toujours les discours classiques. Là, on a eu droit quand même à beaucoup, beaucoup de culture de la part de Maître Serran.
Ouais, vous êtes en train de dire, Kamel, que Maître Serran n'est pas politiquement correct.
Oh, j'oserais pas, Philippe, vous savez.
Il est impolitiquement correct. Mais Maître Serran, c'est un peu son genre de beauté, de ne pas être politiquement correct.
En tout cas, merci.
Mais j'ai pas cru à votre histoire de chocolat. J'ai pas cru.
Merci, Kamel.
Ah bon, je raconte mal les histoires?
Ah bon? Non, ça me paraît. C'est pas le moment, on va dire. C'est pas le moment.
Ah bon?
Bientôt.
Ah oui, alors bientôt, jours, 20h45.
Voilà, exactement.
Kamel, si vous avez une question, elle est la bienvenue.
Oui, Maître, écoutez, j'ai une question. Et j'ai loupé le vendredi dernier, j'ai oublié de vous appeler, j'avais une très importante. Alors, ma question... Et je voudrais me marier en Algérie, donc je suis de la double nationalité, et je voudrais me marier en Algérie, parce que voilà, je suis amoureux d'une charmante dame là-bas, et voilà, donc je voudrais vraiment savoir comment faire mes démarches pour ne pas me tromper et pour gagner évidemment du temps. Voilà ma question à Maître Serran, et surtout ça.
Pour ne pas vous tromper, on parle de l'aspect juridique, voilà. Parce qu'en règle générale, la probabilité de se tromper quand on se marie, elle est quand même forte. Mais si c'est sur l'aspect juridique, monsieur... Alors, vous êtes donc de double nationalité.
Et vous dites ça à quelqu'un d'amoureux?
Je suis encore amoureux à 63 ans.
Il est amoureux. Mais ça commence toujours comme ça. On est toujours amoureux. Et puis, dans la minute qui suit, oui, je la veux. À partir de ce moment-là, les emmerdes commencent. Mais bon.
Voilà,
si Kamel en a conscience, c'est l'essentiel.
Oui.
Bah, si vous êtes de double nationalité, Kamel, donc le mariage peut se faire auprès des autorités consulaires. Donc il n'y a pas de difficulté à ce niveau-là. J'imagine que votre volonté, c'est qu'une fois marié, vous souhaitez que madame vienne au pays.
Oui, un peu, oui, quand même, c'est pas strictement permanent.
Voilà, c'est
Oui, bien sûr. Ouais. Oui, oui.
Bah, voilà, enfin, c'est-à-dire que c'est pour ensuite vivre sur le territoire français avec madame.
Oui, hein, entre les deux, mais vivre principalement en France, voilà. Absolument. C'est tout à fait ça.
Donc, une fois que... vous aurez formalisé votre divorce, encore une fois, auprès des autorités consulaires. Alors, les autorités consulaires pourraient...
Je ne suis pas divorcé, Maître, une petite précision.
Vous êtes marié au moment où je parle?
Non, je suis célibataire, j'étais en concubinage, donc voilà, je n'ai pas d'obligation.
D'accord, donc voilà, mais vous voulez vous marier avec cette femme, est-ce qu'on est d'accord?
Bien sûr.
Voilà, donc j'en reviens à ce que j'ai dit, c'est-à-dire que vous pouvez formaliser votre mariage auprès des autorités consulaires en Algérie, puisque vous êtes de double nationalité, et les autorités consulaires, alors, peuvent... formaliser le mariage sans aucune difficulté, ou pourraient, s'ils ont, entre guillemets, un doute sur la couleur du mariage, puisqu'on parle souvent de mariage gris, de mariage blanc, donc ils pourraient décider de vous convoquer l'un et l'autre dans deux bureaux différents et vous poser un certain nombre de questions pour voir depuis combien de temps vous vous connaissez, et quels sont le ou les projets envisagés par les uns et par les autres. Donc voilà, il peut y avoir cet aspect-là. Donc il ne faut pas être surpris Ça arrive relativement souvent. Et puis, si on considère que les réponses apportées par vous-même et par madame sont des réponses qui, entre guillemets, sont cohérentes et qui traduisent une volonté d'amour et de vivre en commun, bon, là, il y aura pas d'opposition de la part des autorités françaises. Sachez que dans l'hypothèse où ça arrive parfois, dans l'hypothèse où il y aurait une opposition à mariage, comme on dit, c'est une décision qui peut faire l'objet d'une contestation.
D'accord.
Mais le plus dur, c'est pas ça, c'est pas de formaliser le mariage auprès des autorités consulaires françaises. Le plus dur, ça va être ensuite, si c'est votre volonté, la volonté de madame de venir sur le territoire français, d'engager une procédure de regroupement familial.
Oui, c'est
une procédure qui est relativement longue, puisqu'on va, entre guillemets, enquêter sur vous, sur votre situation financière, sur le logement, est-ce qu'il y a suffisamment de place. Oui. Donc il y a le maire qui, enfin, représentant du maire qui va débarquer à votre domicile pour faire un rapport et voir un peu dans quelles conditions madame peut être accueillie. Ces procédures-là, quand elles vont vite, même très vite, ça dure un an et demi quand même, hein.
Ouais, c'est ça.
Donc voilà, il faut faire attention à ça, puisque moi j'ai vu, il y a des couples qui finissent même par se séparer, puisque la personne qui est au pays finit par croire que en fait le conjoint fait pas l'ombre d'un effort et ça avance pas assez vite. D'accord. Ce sont des procédures qui sont longues, c'est-à-dire que ça, il faut dès le début, entre guillemets, l'annoncer à madame. Quand ça va vite, un an et demi est un délai, entre guillemets, raisonnable pour ce type de procédure.
D'accord. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment de manière pour gagner du temps, la procédure.
Non, la matière, malheureusement, il n'y a pas de manière pour gagner du temps. Vous savez, depuis un bout de temps maintenant, les autorités françaises sont très suspicieuses. Alors, parfois à raison, puisque il y a beaucoup de situations où le conjoint qui est sur le territoire français fait tous les efforts du monde, l'intéressé vient sur le territoire français, et puis curieusement il y a une procédure de divorce qui est diligentée dans les 2, 3, 4 mois qui suivent. Donc au bout d'un moment, et là on peut pas en vouloir aux autorités françaises, on finit par considérer qu'il y a parfois une sorte d'arnaque en la matière. Donc les conditions sont de plus en plus strictes, et c'est ce qui fait que ça dure aussi longtemps. C'est pour s'assurer, entre guillemets, que le mariage va encore perdurer.
Oui, je pense, mais en mettre... Donc en Algérie, c'est la procédure classique, mariage à l'algérienne dans un premier temps, parce que moi je ne me suis jamais marié en Algérie. Donc la première étape, c'est le mariage là-bas, selon les règles. Hein,
absolument.
Et après, il faut faire la démarche vers le consulat.
Et après, vous faites la démarche auprès des autorités consulaires françaises.
D'accord.
Alors, pardonnez-moi pour la question que je vais vous poser. Est-ce qu'il y a un écart d'âge important entre vous ou pas?
Non.
D'accord, ouais, c'est important.
Je suis resté très cohérent.
Sobre.
Parce que je ne voulais pas tomber dans cette fabulation. Chercher quelqu'un qui correspond à mon caractère, mes critères, mon avenir, mon futur, en fait. Bon, ouais. Voilà, mon projet, et ça correspond. Voilà, c'est pour ça.
C'est une bonne chose, parce que alors il n'est pas interdit de se marier avec une personne évidemment beaucoup plus jeune que soi,
oui,
mais c'est
sûr.
Vrai que les autorités françaises sont très suspicieuses quand il y a un écart d'âge considéré comme important.
Alors je voudrais juste rebondir pour finir là-dessus. Vous avez raison de poser la question, maître, parce qu'évidemment les hommes préfèrent toujours avoir des femmes plus jeunes. Évidemment, mais il y a quand même, une certaine limite à pas dépasser.
Sauf Michel Sardou. Ouais, qui s'est remarié avec son amour de jeunesse. Alors ça.
C'est bien.
C'est... Au moins, il a été.
Merci à vous, messieurs. Merci infiniment pour ces réponses.
Et tout nouveau de bonheur, maître. Kamel.
Merci infiniment à vous et à très bientôt, j'espère. Dans d'autres occasions.
Merci. Sinon, on fournit l'imam, le DJ, il y a tout. Hein. Si vous voulez, Kamel, on a l'imam Abdelali, il y a DJ Kim pour animer la soirée. Alors, on a Louisa qui est avec nous. Louisa, bonjour, bienvenue.
Oui, bonjour Philippe, bonjour au maître.
Bonjour Louisa.
C'est toujours un plaisir de l'entendre, franchement.
Merci Louisa.
Maître, je voudrais un conseil, s'il vous plaît, un renseignement, si vous pouvez me le donner. Voilà, j'ai ma fille qui a fait sa déclaration sur le revenu en 2020. avec son ex-mari, divorcé, divorcé en 2021. Devant leur avocat respectif, le monsieur, il a bien dit qu'il avait payé sa part. Et les impôts, ils ont fait le rappel à ma fille. Donc voilà, elle a payé sa part, elle.
Ouais.
Et maintenant, ils font le rappel. Même ils ont dit même qu'ils vont faire un saisi sur le revenu parce que monsieur n'a pas payé.
D'accord.
Alors, qu'est-ce qu'elle doit faire ? Elle voulait être juste et respecter la loi, payer sa part. Monsieur travaille aussi, elle travaille. Mais comment faire pour qu'il paye sa part ? Et lui, il ne veut rien savoir, on n'a plus de contact avec lui. Quoi.
Ouais, c'est toute la difficulté, c'est ce qu'on appelle le principe de la solidarité. C'est-à-dire que les autorités... administrative concernant les impôts se pose pas la question de savoir entre guillemets à ce stade-là est-ce qu'il y a eu litige entre monsieur et madame, est-ce que vous avez convenu de telle ou telle sorte, c'est-à-dire qu'ils ont les coordonnées de quelqu'un, ils le lâchent pas, c'est-à-dire qu'on va vous demander de régler l'intégralité de l'impôt et inviter entre guillemets votre fille à se retourner contre monsieur. Donc, vous voyez, c'est le travail le plus facile pour les impôts. Ils récupèrent leur argent tout de suite et à charge pour votre fille de se débrouiller. Mais si vous me dites que vous avez commencé par là, que ce partage des impôts, cet accord a été formalisé devant un avocat.
Oui.
D'accord. Donc, c'est écrit noir sur blanc. Il y a ce qui s'appelle une convention qui le formalise.
Ah non. C'est justement au moment du divorce. Donc ma fille a dit devant leur avocat respectif, devant lui, elle a dit moi je ne signe pas tant qu'il ne me dit pas qu'il a payé sa part sa part d'impôt.
D'accord.
Et lui tout de suite si j'ai payé.
Enfin d'accord,
oui,
mais c'est enfin alors elle est particulièrement naïve, c'est-à-dire que il dit oui si c'est bon, ça s'arrête là, le croit sur parole.
Oui, mais attendez, après quand il y a eu le rappel, donc ma fille a appelé son avocate, elle lui dit comment ça se fait devant vous et devant son avocate, il a dit qu'il a payé et là on me fait appel. Donc son avocate a appelé l'avocate de monsieur, lui disant si il a payé, il y a des preuves et tout. Et là on les voit pas. Nous, il y a une
voilà,
preuve.
Madame, après il y a deux choses, c'est-à-dire que si c'est payé, s'il y a des preuves, d'avocat à avocat, il y a ce qui s'appelle des échanges de pièces, c'est-à-dire qu'elle peut en justifier. Si vous avez l'impression qu'entre le moment où vous demandez les preuves et le moment où les impôts vous tapent sur la tête et que le temps s'est écoulé, c'est qu'a priori, monsieur a menti. Alors, il a pu aussi mentir à son propre avocat. Vous savez, ça arrive très souvent hein, que des clients racontent des bêtises à leur propre avocat.
Voilà. Pour plus d'informations et un complément justement pour poursuivre cette conversation, hein, vous pouvez appeler Maître Serran sur son téléphone portable après l'émission, bien sûr. Ouais,
donc au 06 62 58 59 64, 06 62 58 59 64.
AVS revient dans un instant.
Beurre FM, le best-of.
9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Il y a du travail, Maître Serran, au standard au 01 53 48 3000. Alors nous avons Rabat qui est avec nous. Rabat, bienvenue.
Bonjour Philippe, bonjour grand maître.
Bonjour Rabat.
Ah, quand je lui dis que c'est votre fête aujourd'hui.
Ah oui, c'est une meilleure barreau. Enfin, c'est le plus grand avocat du barreau de Paris.
Oh bah, Rabat, on va manger ensemble.
Inch'Allah.
Hein
oui.
On se dit ça.
Bon, vas-y, tu m'invites.
Tu m'invites. Ouais, il a touché ses tickets restaurant.
Oh. Il a plus que ça, je crois.
Mais c'est vrai, d'ailleurs, je n'ai jamais.
On en parlait à l'instant, justement. Maître Serran pensait changer sa voiture, là, donc. Mmh. Allez, Rabat, votre question.
Voilà, ouais.
Ouais, en fait, moi, c'est concernant la pension alimentaire. Jusqu'à quand on peut la payer?
Alors, jusqu'à ce que l'enfant soit autonome, c'est-à-dire qu'un enfant qui serait majeur, souvent on me dit bon il a 18 ans ou il va avoir 19 ans, j'arrête de payer. Si l'enfant est majeur et si notamment il poursuit des études, il reste entre guillemets d'abord à la charge de sa mère et donc à votre charge. Donc si vous avez une pension alimentaire à régler, ce sera sous réserve qui justifie encore une fois hein, de sa situation. C'est-à-dire, vous avez le droit de dire je veux savoir ce que fait l'enfant. Et puis si
non, mais je les vois.
Mais il a quel âge à l'enfant?
Moi j'en ai deux. J'ai une fille qui va avoir 22 ans.
Ouais.
En fin d'études d'infirmière.
Bon.
Elle est en fin d'études.
D'accord.
Et puis j'ai un fils qui lui est en BTS, en fin d'alternance. Bon, ils sont rémunérés, mais après, voilà,
alors,
ma fille est en dernière année.
Voilà, c'est-à-dire que le fait d'être rémunéré, c'est, vous pouvez invoquer cet argument, mais ça veut dire à charge pour vous, s'il n'y a pas d'accord avec avec la mère des enfants, à charge pour vous de ressaisir le juge aux affaires familiales pour dire voilà, moi ma situation a évolué, voilà la situation de mes enfants. Mais le principe c'est ça, c'est-à-dire que tant que les enfants continuent leurs études, il n'y a pas entre guillemets d'âge limite en la matière.
Non, ouais, c'était juste la question, en sachant qu'ils étaient rémunérés, tout
simplement. Mais vous pouvez le mettre en avant, et le montant de la pension alimentaire varie également si vous, votre situation a changé. Je dis n'importe quoi, mais quelqu'un qui, voilà, qui voit son salaire baisser, ou quelqu'un qui s'est entre-temps remarié, ou si vous avez eu des enfants avec une autre personne, évidemment, que voilà. Donc là, c'est ce qu'on appelle des éléments nouveaux, mais si c'est pas le cas, et si vous ne revenez pas vous-même devant le juge aux affaires familiales, c'est la mère des enfants qui finira par vous dire bah, tu peux arrêter.
Enfin, je pense qu'elle ne le dira pas, mais bon.
La probabilité est infinitésimale. Oui, c'est sûr qu'elle, en tout cas, elle ne vous le dira pas. Mais c'est de bonne guerre. C'est-à-dire que c'est à celui qui veut modifier la décision de saisir.
Mais à partir d'un certain âge, est-ce que la pension ne doit pas être directement versée aux enfants ?
Il n'y a pas pas d'obligation.
Parce que si vous avez 22 ans ou si vous avez...
C'est sur la déclaration, de toute façon, elle est rémunérée. Enfin,
après, c'est... directement. Voilà, c'est un accord, on va dire, entre... alors, avec les enfants, puisqu'effectivement, s'ils ont 22 ou 23 ans, avec les enfants ou avec la mère, on peut comprendre que quand les enfants sont mineurs, bon, on verse ça à la maman et ensuite, elle dispatche. Mais si vous souhaitez verser ça directement sur le compte de vos enfants, donc assurez-vous quand même... que la mère soit informée et qu'il n'y ait pas de difficulté à ce niveau-là.
Oui, d'accord. Non, mais il n'y a pas de souci là-dessus. Là-dessus, de toute façon, ils sont rémunérés directement, enfin, par l'intermédiaire de mon mec. C'est qu'il est, enfin, leur donne l'argent. Et puis même derrière, je leur donne aussi, parce que, bon, bah, bien sûr, ils ont toujours besoin d'argent. Et c'est juste par rapport à la pension. C'est juste cette question-là.
Maître Serra nous a répondu, Rabat.
Tout à fait. Et puis, bah, je vous remercie.
Merci à vous, Rabat.
C'est nous qui vous remercions de votre appel. Merci.
Je vous attends pour le restaurant.
Inch'Allah.
Merci, Rabat. Alors, on va à Saint-Étienne. Lydia est avec nous. Lydia, bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour.
Bonjour, Lydia.
Je vous appelle pour une petite question. Oui, voilà, j'ai ma soeur qui est décédée, qui avait un enfant. Le père n'a pas reconnu à la naissance, il l'a reconnu un an et demi après. Et je voulais savoir s'il a des droits sur l'enfant ou pas.
Ben, si le père a reconnu l'enfant, et donc si cette reconnaissance ne prête pas à discussion, c'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est vraiment l'enfant de monsieur, ben oui, il va retrouver, comme on dit même, recouvrer ses droits sur cet enfant. L'enfant a quel âge ?
Il a 2 ans.
Oui, et monsieur, il dit quoi ? Qu'il aimerait récupérer, ou il a peut-être déjà son enfant ? Qu'est-ce qu'il dit par rapport à ça ?
Ben en fait, moi, ma sœur, elle a fait un testament. Elle voulait que je garde l'enfant. Et monsieur veut prendre l'enfant.
Ben, il reste, qu'on le veuille ou non, entre guillemets, prioritaire. Alors, je ne sais pas dans quelles circonstances tout ça s'est produit et pourquoi est-ce qu'il n'a pas voulu reconnaître l'enfant à l'époque. Mais il reste, en tout cas par rapport à vous, il reste prioritaire, madame, ce qui est légitime et ce qui est normal. Et ce, d'autant plus que si... encore une fois, il accepte de s'occuper de l'enfant si sa situation professionnelle lui permet de s'en occuper. Il risque d'y avoir une bataille entre vous et ce monsieur. Mais il peut mettre en avant des arguments sérieux. Donc je vous dis, après, sauf de votre côté à apporter des éléments particuliers pour dire voilà le comportement entre guillemets que monsieur a pu avoir à l'égard de votre sœur, où il l'a abandonnée à partir du moment où il a appris qu'elle était enceinte. Enfin, vous voyez, on est sur ce genre d'argumentaire. Mais sinon, indépendamment de ça, le fait de reconnaître son enfant aujourd'hui, bien sûr, fait que il pourra demander à exercer des droits sur son gamin.
C'est une bataille perdue d'avance, on va dire.
Ah non, c'est pas ce que je suis en train de dire, madame. Vous voyez, À partir du moment où on m'appelle, par définition, j'ai pas tous les détails. Vous voyez, déjà la rupture entre votre sœur et ce monsieur, je la connais pas, donc je peux pas vous dire qu'au moment où on se parle, il va gagner d'avance ou pas. Mais comprenez bien que ce sont des éléments qui seront pris en considération si demain vous êtes devant une juridiction. Donc je ne suis pas en train de vous dire que tout ça est perdu d'avance. Maintenant, dans l'hypothèse où un magistrat serait amené à considérer que l'enfant doit rester avec vous, vous imaginez bien qu'on va pas couper définitivement les liens entre le père et cet enfant. C'est-à-dire que dans l'hypothèse même où un juge vous accorderait la garde de cet enfant, a priori, si le père le demande, il permettra au père, légitimement, ça reste son père biologique, il permettra au père de visiter cet enfant. Et les mesures qui concernent les enfants sont par définition toujours provisoires. C'est-à-dire que même si le juge demain vous donne raison, je dis n'importe quoi, mais dans un an, dans deux ans, dans trois ans, rien n'interdirait au père de ressaisir un juge aux affaires familiales pour dire « je suis maintenant en capacité de ». Donc ça reste quand même une mesure qui n'est pas définitive, même si vous avez un premier jugement en votre faveur.
Oui, voilà, là j'ai eu un premier jugement, là j'ai un deuxième jugement qui n'est plus à ma faveur.
Mais au moment où on se parle, madame, vous avez déjà un jugement ?
Oui.
J'ai eu un truc provisoire, les banques d'être passées, donc il a gagné.
Là, ça concerne tous les auditeurs. Si vous pouviez commencer par me raconter votre histoire dans le bon sens, c'est-à-dire que faut commencer par ça, madame. C'est-à-dire que donc vous avez.
Oui, mais elle teste aussi votre sagacité.
Oui, non, mais je suis compétent. Voilà. Il y a pas de problème. Donc ça, bah, c'est, on va arrêter de me tester. Voilà, c'est jugé et c'est accepté. Mais donc au moment où on se parle, est-ce qu'on est d'accord ? C'est-à-dire que vous me dites, vous avez deux décisions qui sont en votre faveur.
Ah non, alors j'ai. Non. Quand ma soeur est morte, on a fait quelque chose de provisoire avec les personnes de l'ASE.
D'accord.
Ah, ensuite, ils sont passés au tribunal, ils m'ont pas convoqué, donc convoqué que le papa. On n'a pas compris pourquoi. Et la femme de l'ASE m'appelle me disant ça y est, c'est le papa qui a la garde.
Ouais. Ah bah
et
oui.
Donc je reste là suspendu. Mais pourquoi moi, ils m'ont pas appelé ?
Ah bah c'est assez surprenant. Alors quand elle vous dit, elle vous a pas appelé, c'est-à-dire qu'il y a deux choses. On vous a dit, entre guillemets, on considère que vous n'avez rien à faire dans l'histoire ou c'est une erreur de procédure ?
Eh bah alors c'est qu'on m'a dit que le papa, on devait entendre en premier le papa et ensuite moi.
Non, alors ça, le légitimement, il n'y a pas de difficulté, mais puisque vous me confirmez qu'elle vous a ou elle vous aurait déclaré qu'on aurait dû vous entendre et ça n'a pas été fait, donc éventuellement... Encore une fois, j'ai pas les détails de l'affaire, mais éventuellement être considéré comme une erreur de procédure. Est-ce que vous avez un exemplaire de la décision qui a été rendue ou pas ?
Je vais le chercher tout à l'heure à 11h.
Bon, si cette décision ne correspond pas à vos souhaits, je crois comprendre qu'elle ne correspond pas à vos souhaits, il n'y a rien qui vous interdit, madame, d'interjeter appel.
Ah, c'est ce que je vais faire. Ok. D'accord.
Voilà.
AVS revient dans un instant.
Beurre FM, le best-of.
Beurre FM, 9h, 10h, AVS, avec Philippe Robichon.
Et vous posez vos questions à Maître Serran au 01 53 48 3000. On va à Rouen et Samia est avec nous. Bonjour et bienvenue, Samia.
Bonjour.
Bonjour, Samia.
Salam alaikum à tout le monde, à toute l'équipe de Beurre FM.
Merci.
Bonjour, Samia. Donc en fait, je vous appelle parce que j'ai un problème assez complexe. J'ai vendu en fait une voiture il y a 5 ans, en 2016. Et cette personne n'a pas changé de carte grise pendant plus de 3 ans. Et en fait, toutes les amendes, je les recevais chez mes parents. Parce que moi, je me suis mariée, enfin j'étais mariée et tout, et j'habite plus dans ce domicile, et j'avais pas accès à ces amendes-là. Donc ça a pris une ampleur, une très grosse ampleur. J'ai plus de 5000 euros d'amende à mon insu maintenant. Et mon permis est nul, donc j'ai un permis à zéro, mon permis est nul, et je ne peux pas porter plainte contre cette personne parce que c'est pas une usurpation d'identité, parce qu'en soi, il se fait détacher tout le temps. Et là, aujourd'hui, je me retrouve dans une impasse parce que j'ai des saisies administratives, j'ai un permis qui est nul, et je n'ai aucune réponse, je ne peux rien faire, la préfecture ne me donne pas de réponse. Les services des amendes me disent que je dois quand même payer, et après, c'est à moi de me démerder, clairement. Donc je ne sais pas du tout quoi faire.
Alors, c'est des situations qui arrivent assez souvent, malheureusement, mais de votre côté, en règle générale, quand on cède un véhicule, On fait quand même, enfin l'ancien propriétaire que vous étiez doit aussi faire la démarche et prévenir les autorités préfectorales en envoyant le formulaire pour dire j'ai cédé mon véhicule.
Alors c'est exactement ce que j'ai fait, sauf que la préfecture me dit qu'ils n'ont rien. Et en fait ce véhicule-là, je l'avais vendu, j'avais envoyé l'original, j'ai pas fait de photocopie. Donc je me retrouve à ne pas avoir de papier de vente. Et ça m'est arrivé avec un autre véhicule, sauf que là, j'avais fait la photocopie et du coup, j'ai pu prouver que j'avais vendu ce véhicule.
Ouais, alors évidemment, comme dit un autre, c'est vraiment le premier réflexe à avoir. C'est-à-dire que on envoie évidemment l'original, mais on conserve la copie à minima et on l'envoie en recommandé à R. Voilà, pour être certain qu'il n'y ait pas de difficulté. Donc, ce qui veut dire qu'en gros, vous n'arrivez même pas à prouver que le véhicule, vous l'avez cédé.
Bah, en fait, oui, maintenant, oui, parce qu'il a changé la carte grise, ça va faire 2 ans.
D'accord.
Donc, comme je leur ai dit, s'il a fait la carte grise, ça veut dire qu'il a fait un faux, parce que moi, je l'ai vendu 3 ans avant la date où il a changé la carte grise. Parce qu'en fait, maintenant, il a changé la carte grise et c'est la gendarmerie qui m'a appris parce qu'il a fait un délit de fuite avec la voiture. Il a fait un petit accident sur l'autoroute tout seul. Et il a fait un délit de fuite. Et en fait, la gendarmerie est partie directement chez mes parents. Et de là, ma mère, elle leur a donné mon numéro de téléphone, ils m'ont appelé. Et c'est de là que j'ai su en fait toute l'histoire et tout ce qu'il y a eu, quoi.
Et vous avez les coordonnées de ce type-là, c'est-à-dire que vous savez où il habite, on peut le localiser?
Oui, alors il y a 2 ans de ça, quand j'ai eu l'appel de la gendarmerie, mon mari est parti dans le secteur parce que je savais où il habitait, c'est dans la région parisienne. Et du coup, mon mari est parti, il a réussi à le trouver en demandant à des gens, donc il est parti chez lui. Et moi, je ne connaissais que son prénom et c'est tout, quoi. Je me souvenais plus de rien d'autre.
Ouais, j'imagine.
Parce qu'en fait, j'ai en la possession également le chèque de banque qu'il m'avait fait en février 2016.
Ouais.
Mais sur un chèque de banque, il n'y a que la ville et le nom de la banque, etc. On n'a pas les coordonnées de la personne. Voilà. Et au jour d'aujourd'hui, je me retrouve dans une impasse parce que je ne sais pas comment faire. Est-ce que je peux porter plainte ou pas? Parce qu'ils me disent que c'est pas une usurpation d'identité parce qu'il s'est pas fait passer pour moi. Quand il s'est fait prendre.
C'est pas faux. C'est-à-dire qu'on est plus sur ce qui s'appelle la responsabilité civile. C'est-à-dire que le type aurait dû faire des démarches et les démarches ne sont pas faites. Mais ce que vous me dites de la part des administrations qui vous invitent à régler et puis éventuellement vous récupérez votre argent plus tard. Alors ça, c'est pas une règle. C'est-à-dire que l'administration peut prendre ça en considération en disant que vous avez été vous-même floué et qu'ils peuvent se retourner directement contre ce type-là. Et puis, vous pouvez tomber sur des pénibles de service qui veulent pas s'embêter et puisqu'ils vous ont sous le coude, on va vous demander de régler. Et une fois que ce sera réglé, à charge pour vous de récupérer cet argent. Mais pour récupérer cet argent auprès de ce type indélicat, ça veut dire engager sa responsabilité. Et c'est pour ça que je vous disais, est-ce que vous arrivez à le localiser? Puisque pour assigner quelqu'un, il faut évidemment une adresse à minima.
Donc
vous savez où il habite, il n'y a pas de difficulté. C'est-à-dire que si vous engagez un procès contre lui et qu'un huissier de justice débarque chez lui, il n'y a pas de problème, on est certain qu'il sera, comme on dit, touché par le document, par l'assignation.
Oui.
Bon, eh ben, il n'y a pas d'autre option, je le redis, si l'administration joue les pénibles. Encore une fois, ils sont pas obligés de le faire, mais en règle générale, ils vont pas se tracasser et eux-mêmes rechercher ce type-là, donc ils vont vous taper sur la tête. Mais vous, pour récupérer cet argent payé de manière injustifiée, vous serez obligé de vous retourner contre ce bonhomme. Vous avez pas contacté votre compagnie d'assurance pour voir s'il pouvait éventuellement prendre en charge, alors pas les amendes, mais éventuellement les frais de procédure? L'assurance de l'époque.
Bah en fait, ce véhicule-là, je l'ai acheté, je l'avais même pas, pour vous dire, je l'avais même pas assuré, 2 mois après, je l'ai revendu.
Ah ouais, bon, bah voilà.
Je n'avais pas voulu avec cette voiture-là, c'est ce que je disais, c'est ce que j'ai expliqué même à la gendarmerie et tout, je dis, cette voiture-là, je n'ai même pas roulé avec, je l'ai acheté. Et après, en fait, vu que j'étais en pleine construction de ma maison, J'avais besoin finalement de cet argent-là, donc je l'ai revendu en fait. Elle était posée pendant 2 mois, je n'ai même pas...
Je rappelle quand même, à titre accessoire, qu'un véhicule qui est même posé dans un garage doit à minima être assuré. Oui. Faire attention à ça, parce que s'il se passe n'importe quoi, il prend feu ou enfin n'importe quelle bêtise, évidemment, on est content à ce moment-là de se dire, tiens, je suis assuré. Donc même si on n'utilise pas un véhicule, à minima, il y a une assurance qui doit être prise. Vous voyez, et puis ça aurait pu vous soulager financièrement sur l'éventuelle procédure que vous serez amené à faire. Mais en plus, j'allais dire, vous avez pas le choix, parce que si vous faites pas ça, cet argent... que vous allez verser pour les amendes et autres, vous pourrez jamais le récupérer. Donc, à charge pour vous de vous retourner contre ce type-là et devant le tribunal civil, évidemment, on va vous dire, bah écoutez, si vous réclamez le remboursement de telle ou telle somme, merci de me prouver que vous avez bien payé. Donc, c'est vrai qu'il va falloir mettre d'abord la main à la poche.
Bah, en fait, là, en soi, pour le moment, ils ont réussi, parce que je reçois des saisies sur mon compte, ils ont réussi à saisir qu'une seule fois.
Ouais.
Après, je ne vais pas vous mentir, je joue un peu au chat, à la souris avec eux, c'est-à-dire que dès que je reçois mon salaire ou dès que je reçois quelque chose, je reçois tout de mon compte. Voilà.
Alors, j'entends bien, mais voyez, c'est une technique qui marche un moment, ils ne vous lâcheront pas. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que l'État a tout le temps du monde, donc ils ne vous lâcheront pas. Donc il faudra quand même. À un moment ou à un autre, régler cet aspect-là, quitte, même si ça peut sembler terrible pour vous, quitte à proposer un règlement en plusieurs fois, mais ce jeu du chat et de la souris, il y a qu'un seul vainqueur, c'est toujours l'État. Hein.
Ah oui, non, c'est sûr, mais c'est parce que là, pour le moment, j'ai pas d'autres.
Ah non, mais j'entends bien. Voilà, hein, c'est pas, je critique pas ce que vous dites, c'est légitime.
C'est pour ça que j'ai... Parce qu'en fait, hier, j'en parlais avec mon patron, et il me disait de voir avec un avocat s'il n'y avait pas possibilité au moins de stopper la procédure de saisie, de paiement.
La difficulté, madame, c'est que, à la limite, stopper la procédure de saisie, ce serait justifié que vous avez localisé le type indélicat et que vous allez vous retourner contre lui. Vous voyez, c'est-à-dire que vous envoyez une assignation à ce type-là pour dire voilà le comportement qu'il a eu et moi je veux engager sa responsabilité. Peut-être qu'avec la preuve de ce document, et je dis bien peut-être, il n'y a pas d'obligation, peut-être que l'administration cessera de vous embêter en attendant l'aboutissement de la procédure. Mais c'est peut-être, l'administration n'est pas obligée de le faire. Ils peuvent taper sur la tête de la personne dont le nom apparaissait sur la carte grise.
Parce que moi, là, au jour d'aujourd'hui, si je prends par exemple un avocat, vu que j'ai un chèque de banque, s'il peut prouver que le chèque de banque, il date du 5 février 2016 quand même. Donc, lui, il a changé sa carte grise au mois de juin, 3 ans après. Je crois 2018.
Ah non, mais je crois que vous avez, encore une fois, madame, tous les éléments. Vous voyez, c'est pas de votre côté un manque de preuves. Il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que vous ne pourrez pas faire l'économie de ce type de procédure.
D'accord. Mais est-ce que vous me conseillez quand même de prendre un avocat et de lancer une procédure?
De toute manière, vous allez vous retrouver a priori devant un tribunal judiciaire. L'avocat est obligatoire, donc il faudra en prendre un.
D'accord, très bien. Bon, c'est ce que je vais faire. Voilà. Aujourd'hui, j'ai pas le droit de porter plainte.
Non, c'est vrai qu'il n'y a pas d'usurpation d'identité. Et quand on vous répond ça, ils ont raison.
Oui. Donc même eux, ils essayaient de trouver un chef d'inculpation en fait pour pouvoir porter plainte, mais même eux, ils n'ont pas trouvé.
On est sur l'aspect civil.
Donc ils m'ont dit qu'il s'était arrêté plusieurs fois et que sa carte grise n'est pas changée. Et lui, il a eu des amendes à son nom, mais c'est tout ce qu'ils peuvent faire, quoi. Rien de plus.
Non, mais vous pourrez entre guillemets le tacler que sur l'aspect civil.
D'accord.
D'où la nécessité, l'obligation même de prendre un avocat pour qu'il puisse engager cette procédure.
D'accord, très bien. Bon, merci pour vos réponses.
Merci à vous.
Merci, Samia. Nous avons Karim qui nous appelle de Grenoble. Bienvenue, Karim.
Oui, bonjour.
Bonjour, Karim.
Bonjour, Karim.
Bonjour. Bonjour, Maître Serran. Je voulais juste presque vous remercier. J'ai écouté votre émission, ça fait 3 ans maintenant, mars 2019, au sujet de ascendant à charge.
Ouais,
les parents.
Donc voilà, moi j'ai ma belle-mère qui a 2 filles jumelles. Décédée, le mari, elle était enceinte des 2 jumelles. Le mari est décédé pendant 3 mois de grossesse. Bref, je me suis marié en 2013 en Tunisie avec ma femme. Et donc, à chaque fois, je faisais des visas pour ma belle-mère et je devais aller à Tunis, moi, pour lui faire le visa et la ramener en France, ainsi de suite. Et dès que j'ai écouté votre mission, le mois d'après, j'ai fait la demande de visa long séjour ascendant en charge de français. Ils m'ont accepté. 6 mois. Mmh. Et arrive à Grenoble, elle a eu une carte séjour de 10 ans.
Bon, bah écoutez, comme quoi l'intervention à la radio n'est pas inutile. Si
champion du monde.
Oui, si ça peut, voilà, si ça peut vous aider, bah c'est tant mieux.
Oui, j'y croyais pas trop au début, parce qu'on m'a dit pour les Tunisiens c'est difficile, et j'accepte plus pour les Algériens. Mais donc voilà, donc tout est bien passé, elle est très contente, elle a tous ses droits. Et en fait, c'était vraiment, même pour moi, en tant qu'un visa touristique, c'était le parcours du combattant.
Et bon, voilà. Bah écoutez, enfin vraiment, ça, c'est bien d'avoir ce genre de retour. Ouais, franchement, ouais. Ça fait plaisir. Donc, comme quoi, on n'est pas en train de blablater pour rien. Et que ça porte parfois ses fruits. Alors, pas toujours, évidemment, malheureusement, mais ça porte parfois ses fruits. Bah, c'est tant mieux, monsieur, si ça a été dans votre sens et dans le sens de l'intéressé.
À chaque fois, je dis que j'appelle, et là...
Écoutez, en tout cas, c'est gentil, et honnêtement, ça fait plaisir.
Bon, bah, je vous remercie encore, maître Ferrad.
Merci à vous pour cet appel.
Bonne journée.
Merci bien.
Ah, c'était juste pour dire ça, il n'y avait même pas de questions, rien. Ah, bah, c'est magnifique, ça, Karim.
Ouais. Merci,
c'était, Karim. Voilà, c'était vraiment, je veux dire, vous voulez, voilà, quoi, c'est qu'en fait, voilà, ça existe, ça marche, et voilà, quoi, c'est, faut pas baisser les bras, quoi, faut toujours essayer. Bon, surtout la belle-mère est contente, quoi.
C'est bah, voilà. Et vous, Karim, alors, au fait, est-ce que vous êtes content de l'avoir fait venir?
Oui, bien sûr, elle vit chez nous et tout, elle fait des va-et-vient, pour moi, voilà, c'est une pratique pour tout le monde, quoi. Elle a eu deux filles, qu'elle a élevées, elle vit là-bas toute seule, sans ressources, sans personne, donc, et là, elle a ses filles, une fille qui vit à Saint-Denis et une fille qui vit avec moi à Grenoble, donc voilà, quoi.
Parfait.
Donc, tout le monde est heureux.
Voilà, exactement. C'est une belle histoire. Merci, en tout cas, de l'avoir partagé avec nous, Karim.
Allez, ben, bonne journée, plaisir à vous.
À vous aussi, Karim.
Merci, Karim.
Au revoir.
Passez une très belle journée sur Beurre FM.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.